Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans son tout dernier numéro, le magazine Urbania présente les 50 Québécois qui créent l'extraordinaire. Ils recréent des classiques de l'histoire de l'art en y injectant talons hauts et irrévérence. Elle se cache sous une cagoule pour apposer des collages revendicateurs partout dans le monde.
Rencontre explosive entre Toufik et Miss Me, deux artistes qui n'en font qu'à leur tête.
Moi, en tant que femme, je pense que j'ai une conversation extrêmement importante à avoir avec ma sexualité, avec ce que la société m'a toujours dit, avec ce que j'ai vécu, avec les oppressions que j'ai ressenties de par ma vie, de par mon vécu.
En fait, une artiste ou un artiste, c'est juste une personne qui a trouvé le bon moyen de traduire son vomi d'émotions pour l'exprimer. Point.
Les Rencontres extraordinaires, une série de 5 épisodes créée par Urbania en collaboration avec Le Devoir.
Ah, ben, tout de suite, ça commence. Tu nous enlèves le vin en partant?
Miss Me Toufik maîtrise l'art de la création provocante. Les collages de femmes masquées au sein dénudé que vous croisez en pleine rue, ce sont les fameuses vandales de Miss Me. Les abribus abordant de mots valises Pussy Illuminati, c'est elle aussi. Toufik, de son côté, organise des trucs audacieux de type parade militaire d'hommes en talons hauts et présentation de récits mythiques revisités à la sauce identitaire.
En fait, je suis en train de réaliser que si on bouge le...
Ouais, ça fait
malgré leur amour pour les thèmes semblables, les deux artistes ne s'étaient jamais rencontrés. On a décidé de remédier à la situation en les conviant à un rendez-vous avec Catherine Lalonde, journaliste au quotidien Le Devoir. Et comme on s'y attendait, la magie a solidement opéré.
Verse. Alors, moi, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Toufik et de Miss Me et d'une bouteille de vin rouge.
Yes.
Et Toufik et Miss Me sont deux artistes qui travaillent à la fois les mêmes thèmes et qui sont fort différents.
Et qui sont fans l'un de l'autre.
Oui!
Je me permets de dire ça, mais
oui!
Je suis trop excitée.
Est-ce que ça fait longtemps que vous connaissez ce que l'autre fait?
Moi, non. Et franchement, je comprends pas pourquoi. Parce que quand Rosemée m'a parlé de ce podcast et m'a parlé de Toufik, et j'ai eu un coup de foudre, j'étais comme, mais c'est qui, lui? Mais pourquoi c'est pas mon meilleur ami?
Tu l'as découvert à ce moment-là.
Non, j'ai fait ton Instagram du début à la fin, je l'ai montré à tous mes amis, j'ai partagé sur Facebook, genre, j'étais juste comme, c'était ridicule.
Qu'est-ce qui te fait capoter dans ce que t'as vu?
Il est lui, il en a rien à foutre de rien. Il laisse rien de l'extérieur, rien de la société, rien des normes définir ce qu'il a envie de faire et ce qu'il ressent. Et du coup, il l'extériorise et c'est a breath of fresh air. C'est magnifique, c'est inspirant, c'est irrévérencieux, c'est beau, c'est bizarre, c'est vrai, c'est drôle. C'est contre toutes les définitions et les choses qu'on nous a toujours imprises. Et pourtant, c'est plus vrai que toutes ces choses-là. Je sais pas, moi, ça... Ça me fait marrer en plus.
Ce que tu as vu, c'est une série de photos.
Mais oui, c'est drôle.
Tellement
ça, c'est important.
Ça me fait marrer.
C'est très drôle. Mais tu travailles beaucoup tout fait que la photo. Tu te mets en scène toi-même.
Exact.
Tu fais des performances aussi.
Aussi, ouais.
Ça se déploie de plusieurs manières.
Ouais.
Et toujours, pratiquement, tu questionnes le genre. Tu vas te travestir, tu vas te transformer autour de ça. Est-ce que l'humour est volontaire?
L'humour est totalement volontaire. En fait, j'ai réalisé que j'ai réalisé que pour toucher les gens, il faut qu'ils rigolent. C'est tout con, mais j'ai l'impression que quand quelqu'un rit, il s'ouvre un peu plus. Son âme est plus accessible. Et en fait, vu les sujets touchy que moi je traite...
Qui sont?
Le genre, la religion, l'immigration, la perception aussi. Tout, qu'est-ce qu'on pense en fait de quelqu'un quand on voit la personne? Comment est-ce qu'on la met dans des boîtes? Qu'est-ce qu'on imagine qu'elle pourrait dire, qu'elle pourrait vivre, etc., etc. Et vu que ce sont des sujets qui sont quand même super touchy, je considère que utiliser l'humour fait baisser les barrières, donc les gens rigolent, Donc, ils ne prennent pas ça au sérieux. Et c'est encore la meilleure façon de planter un couteau bien comme il faut.
Quand ils ne regardent pas.
Exactement. Passer le message, en fait, et sauter par-dessus les peurs, en fait, et aller directement dans le cœur de la personne. Et peut-être qu'ils verront notre art à un moment et qu'ils réaliseront ce qu'ils ont vu, qu'ils réaliseront les émotions qu'ils ont eues plus tard. Mais ça, c'est pas notre problème. Je pense, je dis notre parce que toi et moi, Missy, on joue, je pense, sur le même territoire. C'est jouer avec les peurs des gens par rapport à ce qu'ils voient de l'autre. Ouais. L'autre étant, dans ton cas, la femme. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends de ton travail.
Toufik, toi, tout à l'heure, quand Missy est rentrée dans le studio, t'as capoté.
Ben raide, j'en pouvais plus, je te jure. Je me contenais plus.
Depuis quand est-ce que tu connais ce qu'elle fait? Depuis quand est-ce que quand est-ce que t'as rencontré son homme?
Tu sais, c'est fou, je t'en parle et j'en ai les larmes aux yeux parce que je trouve ça vraiment super hot.
This is such an amazing moment. Oh, my
big
goodness.
Time, t'as pas
This
idée.
Is crazy.
En fait, ça va faire peut-être 2 ans. Je pense 2 ans que moi j'ai vu, ou 1 an et demi où j'ai vu en fait certaines de tes œuvres sur les murs de Montréal. Je passais dans le riche, j'étais, merde, mais c'est quoi ce truc? Et je te jure, je marchais, je me suis stoppé, j'étais genre comme ça, je regardais.
Est-ce que tu te souviens de laquelle là, c'était?
C'était sur Saint-Viateur.
Ok.
Une cagoule, une licorne. C'est récent, c'était... les licornes ou c'était...
Non, ça, c'est... Ben, la licorne, elle est assez ancienne. Parce que je pense que c'était une des premières versions de Portrait of a Vandal. Donc ça devait être ça. Parce que les nouvelles versions de Portrait of a Vandal, il n'y a plus vraiment de licorne. Il y en a une qui mâche du chewing-gum, mais les autres ne sont pas licornes. Donc ça devait être ça, ouais.
Mais voilà, moi, j'ai devant moi une femme nue, le visage couvert, avec un sein... en forme de licorne. Et je trouve ça super beau, je trouve ça super flippant, parce que je vois pas sa face, parce qu'elle est en noir et blanc, parce qu'elle est en dimension quasi 1-1. Je peux pas expliquer ce qui se passe d'autre. Moi, je vois ça et ça me parle.
Mais c'est ça qui est taré, en fait. Tu sais, t'es le premier mec que je rencontre qui est touché par cette pièce-là. Et... moi, je suis habituée à ça, puis je trouve ça normal. Puis quelque part, ça ne me dérange pas, parce que c'est les Portrait of a Vandal et toute cette série-là, c'est des séries que je fais déjà de moi-même, pour moi-même, et ensuite pour un public dans un second temps, mais souvent plutôt féminin. Tout ce travail féministe que je fais, pour moi, ce n'est pas pour parler aux hommes, c'est pour parler aux femmes. Qu'on se parle à nous-mêmes et qu'on discute même à l'intérieur de nous de certaines choses, de certaines contradictions, certains jugements, etc. Et la majorité, quasi, il n'y a aucun mec qui le capte, ça. À chaque fois qu'il voit ça, il trouve ça rigolo, drôle, un peu marrant. Mais les filles, elles captent ça en 2 secondes 30. T'es le premier mec qui comprend.
Mais c'est tout sauf drôle, ce truc. Tu te rends compte,
exact.
C'est énorme. Attends.
Mais t'es le premier mec. C'est impressionnant pour moi. C'est extraordinaire. Parce que je te dis, les nanas, elles captent ça en 2 secondes. Mais vraiment.
Mais je pense
les mecs comprennent jamais.
Je pense que les mecs qui ne comprennent pas, ce sont des mecs qui n'ont aucune notion du féminisme.
Je suis pas sûre, j'irai pas jusque là. Ils le ressentent peut-être pas aussi profondément que toi, parce que vu que toi tu joues sur les genres, toi tu joues sur la femme, tu t'habilles, tu te mets en scène avec des attributs féminins dans la société, tu le vis plus intérieurement peut-être et de manière différente et plus profonde que la majorité des hommes. Mais j'irai pas jusqu'à dire ça, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des féministes. Tout le monde est féministe de manière différente et tu peux pas en vouloir à quelqu'un de moins comprendre de manière profonde que d'autres. Ça veut pas dire qu'il est pas de ton côté pour ton combat, etc. Je pense qu'il faut pas non plus aliéner les gens s'ils sont pas aussi à fond que toi. Mais je pense que ça veut dire vraiment quelque chose de ton travail et du fait que vraiment tu le ressens, ce que tu fais.
J'ai pas le choix.
Pour que tu comprennes ça.
Attends, j'ai pas le choix, mais comment est-ce que tu veux faire un travail si tu le ressens pas? Attends.
Oui, d'accord, mais bon, je veux dire, voilà quoi.
On peut pas bullshitter ce genre de choses.
Ce qu'on fait, toi et moi, là, on peut pas vraiment bullshitter. Là.
Mais ça pose la question inverse quand même, Missy, est-ce que ça serait pas intéressant que tu trouves des façons de parler de féminisme aux hommes de manière aussi radicale?
Je pourrais, mais pour l'instant, j'en ai rien à foutre.
Pourquoi?
Parce que. On m'a dit que j'allais parler mal. Non, mais parce que je pourrais faire plein de choses, puis je pourrais sortir du. Parce que je parle pas que de féminisme, mon travail parle de beaucoup d'autres sujets. C'est juste que pour l'instant, je parle des choses qui, pour moi, me parlent. C'est tout le travail que je fais part à la base d'un travail et d'une conversation interne que j'ai.
Ouais.
Dire la base, on s'entend. Que tout ce que je fais, c'est un travail qui me parle à moi, qui est une conversation pour moi-même, qui est moi qui essaie de gérer certaines choses à l'intérieur de moi-même. Par l'intermédiaire de ce que je fais, ça, c'est dans la sphère publique et les gens, ça résonne chez eux ou pas, ça leur parle ou pas, ça les choque ou pas, ils aiment ou pas. mais c'est dans un deuxième temps. Donc je vais partir des choses qui me parlent et qui sont importantes pour moi. Moi, en tant que femme, je pense que j'ai une conversation extrêmement importante à avoir avec ma sexualité, avec ce que la société m'a toujours dit, avec ce que j'ai vécu, avec les oppressions que j'ai ressenties de par ma vie, de par mon vécu. Et c'est de ça dont je parle. Je pourrais parler de plein de choses, mais pour l'instant, les hommes, c'est important. Et c'est des gens qui font partie de toute cette notion de féminisme, parce que ce n'est pas une histoire juste de filles, on s'entend. C'est une histoire de tout le monde. Hommes, femmes, queer, whatever, humans. Okay, c'est un truc d'humain. Mais pour l'instant, moi, la manière dont je l'aborde, il y a d'autres gens qui abordent ça de manière différente et c'est important, mais moi, je l'aborde de manière à femme, à l'intérieur de nous-mêmes, entre nous.
Mais on ne peut pas s'empêcher de poser la question parce que tu fais du graffiti, c'est dans l'espace public.
C'est pas du graffiti, hein. C'est du graffiti.
C'est du collage.
C'est du wheat paste, ça fait partie de ce qu'on appelle souvent le street art. Moi, j'aime pas tellement ce terme-là, mais le graffiti, c'est quelque chose de complètement différent.
Explique-moi.
Ouh là là, je vais pas te faire une histoire du... Graffiti, ça arrivait, hein. Ouais, c'est... graffiti, ça arrivait bien avant ce qu'on appelle aujourd'hui le street art. C'est quelque chose qui se revendiquait pas forcément de la sphère artistique, d'ailleurs. C'est quelque chose qui vient du mouvement hip-hop, du début du hip-hop, avec le b-boying, avec le rap, etc. C'était des histoires de quartier, c'était des histoires de crew. C'est toujours des histoires de crew, c'est des histoires de... Il y a toutes sortes de règles à l'intérieur de ça. Et c'est une histoire de throw-up, c'est une histoire de tag, c'est une histoire de crew que tu représentes, etc. Et ça n'a rien à voir avec... tout ce qu'on appelle aujourd'hui street art, qui a une qui vient bien après, qui juste occupe la même sphère publique et le côté illégal des choses, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas la même chose. Donc il faut surtout pas appeler ce qu'on fait du graffiti, parce que ça énerve les gens qui font du graff, et ils ont raison, parce que c'est pas la même chose que ce qu'ils font, c'est pas le terme correct. Donc moi, je dis que je fais du vandalisme artistique, c'est ça que je dis. Mais communément, c'est du wheat paste, du collage, du street art.
Puis mon réflexe de chercher un terme français, pour street collage, art, n'est pas bon, ce serait...
Street art, ben, art de rue.
Ouais, de l'art de rue,
mais
on va dire.
Mais c'est pas ça
même.
Encore.
Mais c'est nouveau, il y a mille manières de faire de l'art de rue. De toute façon, il y a des gens qui font du 3D, il y a des gens qui vont tisser des choses dans les arbres, il y a des gens qui vont faire des petites figurines miniatures, il y a des gens qui vont installer des choses en papier, je veux dire... c'est un truc qui se construit tout le temps, donc il n'y a pas vraiment besoin de définition. Je pense que ça fait partie de ce qu'on raconte. Pas besoin de définir plus que ça. Hein. Tu expliques ce que tu as vu, et puis point. Moi, je ne me considère pas street artist, parce que là, par exemple, je fais des installations de temps en temps artistiques. J'ai même fait des performances, j'ai fait pour une fois. Et là, je viens de faire une vidéo, un art film qui traite de ce portrait, Chartered of a Vandal, que tu as vu, dont tu as parlé, qui prend l'histoire beaucoup plus loin. Donc, moi, je suis artiste. La rue, c'est juste que pour l'instant, 90% de mon travail, c'est dans la rue. Et j'aime la rue et j'ai une raison pour laquelle je fais ça, mais la rue définit pas ce que je fais.
N'empêche, si tu veux t'adresser particulièrement aux femmes...
La rue est le meilleur endroit.
Oui, mais tu t'adresses conséquemment aussi aux hommes.
Oui, non, mais si je me permets de...
Vas-y.
Parce que t'as dit un truc que je trouve super intéressant. T'as dit, la rue, en fait, est l'espace où là, tu t'exprimes pour le moment. Si moi, je pouvais m'exprimer dans la rue, je le ferais.
Tu peux pas?
C'est plus compliqué quand même. Hein.
Exactement. Non, c'est...
Ça dépendrait peut-être où.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ma façon à moi de créer mes œuvres, je pourrais totalement imprimer mes œuvres sur du papier, genre aller faire du...
De marcher dans la rue et d'être toi, c'est de l'art de rue. Enfin, c'est la même chose que tu fais.
Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'entre la fois où tu me vois avec ma chemise, mes petites Adidas et mon petit chapeau, et que tu me vois après en bikini avec une petite robe bien vaporeuse, c'est pas pareil.
Non, mais c'est ça. Mais...
Surtout sur des talons de danseuse de poteau.
C'est ça.
Et c'est ça que je veux te dire, c'est que moi, j'aurais pas tendance à mettre les... En fait, ma présence physique dans l'espace n'est pas toujours de l'art.
C'est quand tu choisis. De toute façon, moi, personnellement, je trouve que ce qui définit l'art, entre guillemets, pour l'instant où j'en suis dans ma définition de l'art, parce qu'on s'entend que c'est la chose la plus difficile à définir, mais pour moi, ça part d'une intention artistique. Et quand tu es dans tes Adidas, etc., t'as pas l'intention artistique, mais quand tu es habillé différemment et que tu viens pour te mettre en scène,
c'est clair.
C'est une intention artistique, Totalement. Donc c'est de l'art. Donc pour moi, c'est ma manière actuelle, au jour d'aujourd'hui, peut-être demain je vais changer, de définir ce qui est de l'art.
Tout à fait. Mais pour ce qui est, pour, si je reviens à ce qui est, aux questions de la rue, justement, oui, la rue pour moi est le meilleur endroit pour toucher le monde.
Pourquoi ?
Parce que c'est le lieu où les gens sont en transition, les gens sont en déplacement, les gens ne sont pas dans leur zone de confort, qu'elle soit chez eux ou qu'elle soit au travail. Les gens sont dans un espace qui ne leur appartient pas, car c'est un espace public, donc il appartient à tout le monde. Et quand tu ramènes quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas automatiquement organisé, prévisible, comme une œuvre de Miss Me, qui va venir te gifler pendant que tu vas aller au travail, là, pouf, t'as cette femme qui
t'enfonce comme ça. Face.
Non mais c'est ça, que tu as cette œuvre-là qui te gifle, ouais, c'est exactement le travail de l'art. C'est pousser quelqu'un qui s'y attend pas, et là, le temps que la personne reprenne sa position normale, là, t'as fait ta job. Et c'est pour ça que moi, je trouve que la rue est intéressante. Donc, elle le fait avec ses collages. Elle le fait maintenant avec ses vidéos. Je suis très impatient, vivement, le moment où ces vidéos-là seront projetées sur des bâtiments, comme on voit des œuvres, comme on voit des œuvres maintenant qui sont présentées sur la place des festivals ou sur la place Émilie Gamelin et tout ça. Vivement qu'on voit une œuvre de Miss Mix se projeter comme ça sur, sur l'hôtel des gouverneurs. Hôtel des gouverneurs, écoutez mon message.
Beaucoup de gens seraient moyennement contents là. J'aurais des plaintes.
Mais il est là le point.
C'est scandaleux.
Mais c'est ça le point. Notre point, c'est de...
Mais tu sais, moi, je suis pas vraiment d'accord en vrai. Parce que moi, en réalité, ce que je fais, c'est pas pour choquer.
Non, tu fais pour t'exprimer.
Je fais pour m'exprimer, je fais pour... parce que moi, j'en ai besoin. Parce que je pense personnellement que j'ai le droit de le faire, même si je suis consciente que c'est illégal. Mais je considère que toutes les pubs qui m'arrivent dans la fucking face, et qui sont pas toutes de merde, mais disons, il y a certaines pubs qui, franchement, sont pas nécessaires socialement, je pense, dans la vie de personne, qui sont de la pollution visuelle, ok. Donc chacun a le droit de faire ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais si eux, ils le font, moi, je considère que ce que je fais, j'ai le droit. Et en plus de ça, je le fais pas pour gagner de l'argent, j'en perds plus qu'autre chose. Je veux dire, c'est une attention purement sociale, purement personnelle.
C'est parfait.
Ils ne pissent pas, ils se versent un verre de
Ce n'est pas un acte artistique transgressif dans le studio de choc, c'est un acte alcoolique.
Pardon. Voilà, je considère que moi, je pense personnellement, au fond de moi, que ce que je fais, ce n'est pas quelque chose de négatif, et que je pense que même si je conçois que certaines personnes ne vont pas aimer, ou ne vont pas être touchées, ou vont même être offensées par ce que je fais, je considère que le peu de gens qui sont touchés positivement, à qui ça fait du bien, à qui ça parle, à qui ça donne du courage, à qui ça donne de la hargne, à qui ça donne de la force, eh ben, je considère que ça vaut la peine. Donc, au niveau personnel, de ma morale personnelle, j'ai aucun problème avec ce que je fais. Mais je le fais pas pour choquer.
Amen. Non, mais t'as parfaitement raison. Je t'ai dit amen, mais moi non plus, je crée pas pour choquer. En fait, je comprends parfaitement ton point. Techniquement parlant, sauf erreur de ma part, Miss Me et moi, on crée parce qu'on a envie de créer. Parce qu'on a envie de s'exprimer. On s'en compte.
C'est du vomi émotionnel. C'est parfois ce que je dis aux gens.
Le vomi, ouais, c'est très amusant. C'est tellement amusant que tu dises ça comme ça. C'est exactement le terme que j'ai utilisé à San Francisco pour parler de la création à un moment.
Mais non.
Je te jure.
J'ai un peu l'impression d'assister à une rencontre de jumeaux cosmiques.
C'est malade mental.
En tout cas, je sais pas, mais c'est génial parce que j'étais à San Francisco il y a 3 semaines pour une présentation à l'École des Beaux-Arts. Et donc je parlais et je disais techniquement, je disais en anglais, il y a des gens qui vomissent leur art, qui les vomissent comme ça, qui s'expriment. Et t'en as d'autres qui réfléchissent et le vomissent.
Oui, mais ça revient à du vomi émotionnel quand même.
Exactement.
You gotta get it out, otherwise you're gonna get really, really sick. Mm. Tu vas être malade si tu gardes trop à l'intérieur de toi. C'est une manière de...
Non, mais de l'extérioriser. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que le terme vomir, en fait, ses émotions, est super intéressant parce qu'on a tous différentes façons de le faire. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un sujet qui nous touche et on veut en parler. Et comment est-ce qu'on en parle? Et c'est ça le truc. Et c'est que l'idée est de véritablement trouver... C'est comme ça que moi, j'ai défini en fait un artiste ou une artiste. C'est en fait une artiste ou un artiste, c'est juste une personne qui a trouvé le bon moyen de traduire son vomi d'émotion pour l'exprimer. Point. Moi, je pars du principe que tout le monde est artiste. Et je dis ça pourquoi? Parce que moi, je viens d'un milieu qui n'est pas en tout artistique. Mon père était boulanger-pâtissier, il tenait des dépanneurs, ma mère est mère au foyer.
Etc. Yo, mes parents sont médecins, là. Scientifique, rien à voir là.
Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on vient d'un milieu qui n'est pas du tout artistique, en tout cas pour moi, par moi, c'est clair. Et l'idée, c'est juste de te dire, ok, tu te réveilles un matin et tu te rends compte que, oh, si je fais ça, bah, peut-être que ça me... Oh, tiens, ça m'aide, ça me permet d'exprimer quelque chose. Donc plus tu fouilles, plus tu te rends compte que ça te stimule en plus. Parce que oui,
ça fait du bien, c'est comme quand tu vomis.
J'ai jamais adoré vomir, excuse-moi.
Non, mais tu sais, quand t'es pas bien et que tu vomis, comme t'es bien après,
genre. Girl.
Oh, Mais c'est un peu, mais non, c'est un peu ça. Et je pense que ça aussi, ça c'est un artiste, c'est ça.
Ça fait tellement mannequin, là, genre, I want to be size zero girl, so I throw up every day. Non, arrête, like,
I like to eat too much, mom.
Je sais que vous travaillez pas pour eux, mais vous avez parlé de vos familles.
Oui.
Qu'est-ce que vos parents pensent de ce que vous faites?
Oh, les miens adorent.
C'est vrai?
Ils passent à travers, mais ils tiennent le coup. Moi, j'ai une nasty crise de bonne famille. Asti, j'ai de la chance.
Est-ce qu'ils sont ici?
Non, ils sont en banlieue parisienne.
Wow.
Et je sais que avant de faire ma première exposition, j'ai pris sur moi de faire un PowerPoint de toutes les œuvres qui allaient être exposées.
C'était un coming out artistique.
Exactement. Malade. Exactement. Et je suis allé faire, je dis papa, maman, et mon frère, ma petite sœur, et la femme de mon frère, back in the days aussi, tout le monde était là. Je dis bon, vous asseyez, là je fais un PowerPoint. C'est quoi cette histoire, hein? On est au mois de juillet, je vous informe qu'au mois de septembre, ce que vous allez voir là va être exposé à Montréal pour un mois. Ah ouais, ok. Mais là, je passe les photos une par une. Et là, il y a un scandale, parce qu'il y a une photo d'adultère, en fait, où un de mes personnages musulmans se tape une jeune québécoise de 18 ans qui est totalement à l'aise avec sa sexualité, qui n'a pas de problème à l'idée de se taper un mec marié, enfin bref. Pendant que la femme voilée, sa femme, est dans la salle, quoi, elle est grise en pleine action, quoi. Ah ben... Bref, ce que je veux dire, c'est que faire ce coming out artistique-là a foutu le bordel sur le coup, a créé énormément de débats dans la famille, mais a été fucking nécessaire. Et depuis ça, mes parents soutiennent mon art à leur façon. Ma mère me prête des robes.
Oh, mais non.
Mon père... Ah,
si. Est-ce que ta mère est voilée?
Non, mais elle va l'être bientôt, là, parce que là, elle va à la Mecque, elle va revenir être, genre, respectable.
Okay. Oh,
donc, elle va se mettre en scène. Tu sais comment ça marche dans ce milieu-là.
J'ai grandi dans ce milieu-là.
Tu vois le genre, c'est vraiment plus une pression sociale qu'autre chose.
Bah, ça dépend, mais ouais.
Mais écoute, la mère, elle va être... Imaginons, ok, dans 2 mois, ma mère va être voilée parce qu'elle revient de la Mecque et elle va dire à son fils, tes bottes, elles sont super belles. Ok, comment tu marches comme ça? T'as la même démarche que Naomi Campbell. Trouve-moi une explication rationnelle à ça, il n'y en a pas.
Il va falloir que tu viennes.
Je pense que ça veut dire que chacun a sa
elle me les passe déjà, t'inquiète pas.
Oui, c'est moi, là.
Malade.
En fait, elle en achète, elle m'en passe, elle m'a passé des robes. Écoute, il y a 3 ans, il s'est passé une scène que je trouve magnifique. Non, j'étais juste sur le cul, tellement je trouvais ça beau et surtout super naturel. Je venais d'atterrir, ok, de Montréal. Genre, 10h, 11h du matin, je suis KO. Et donc ma mère me fait un bon petit déjeuner habituel, le thé, les trucs, enfin bref, tout ça. Et mon père dit à ma mère, « Ah oui, tu sais la robe que t'as achetée pour Asia ?» Asia étant ma petite sœur, qui est un bijou et qui me sert de, comment dire, d'exemple, en fait, aussi, par rapport à tout ce qui est féminisme et tout ça, c'est ma petite sœur. Tu sais la robe que t'as achetée pour Asia écoute, je pense qu'elle irait à Toufik.
Mais non.
Et là, ma mère dit, ah, mais c'est vrai, t'as raison. Et là, elle monte, va chercher la robe, elle me dit, tiens, essaie-la. Et mon père dit, ouais, je vais voir si ça te va.
Non, j'adore.
Et donc, je me retrouve, la tête, quasi la tête dans le cul, à porter une robe traditionnelle, à marcher devant mon père et dire, ouais, c'est vrai que ça me va bien, c'est la bonne taille. Ouais, ça te va, c'est bon, garde-la. Elle est bonne pour Fatima. Fatima étant un de mes personnages.
C'est magique.
Et... À ce moment-là, j'avais 2 trucs. Soit je partais à pleurer, soit je partais à rire. Je dis, je vais rire, je vais pleurer après, on est tranquille tout seul.
Mais c'est magique parce que tu vois, ta mère, elle est capable, ta famille te soutient, te comprend, t'aime et fait tout ça. Mais en même temps, ils sont capables d'être plus traditionnels dans leur propre manière d'être, dans leur religion, etc. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça qui est magnifique, c'est la véritable tolérance. C'est-à-dire, moi, je fais mes affaires à ma manière, mais je t'aime et je te soutiens dans ce que tu fais. Et vice-versa.
Mais ça va dans les 2 sens. Ça veut dire que moi, de mon côté, il faut aussi que je reconnaisse qu'ils font leur maximum. Et il faut aussi que je m'exprime en fonction de leur culture, en fonction de leur croyance, en fonction de leurs principes. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas dans un sens, ça va dans les 2 sens.
Oh, donc,
quand moi, je me retrouve au Maroc, comme j'y étais il y a 2 ans, pour une fête familiale, bah écoute, ouais, fallait s'habiller traditionnellement, bah voilà, j'ai mis la robe traditionnelle et tout, en plus j'avais une super grosse barbe parce que je me préparais pour une performance en Irlande.
T'avais l'air religieux,
ah,
quoi.
J'avais l'air religieux, puis ça, toutes les tentes étaient genre, ah, mais c'est qui ce mec-là? Et j'ai toujours été la folle furieuse de la famille, tu vois, mais au lieu de dire Toufik c'est l'homosexuel, Toufik c'est le gay, on dit Toufik c'est l'original.
Et je pense qu'il plus vrai, en plus.
Mais je pense qu'il est là le point, exactement. C'est que c'est plus vrai de dire Toufik c'est l'original que de dire Toufik c'est l'homosexuel.
Parce que d'être homosexuel, il n'y a rien de forcément très original. Donc
tu vois, c'est pour ça que ça s'est fait. C'est non, pour ça que cette rencontre devait se faire. This bitch is everything.
Non, mais c'est vrai, c'est pas ça qui définit l'originalité. C'est pas...
pas du tout. Toi, chez toi ?
Moi, écoute, au début, je comprenais pas bien parce que mes parents, mon frère sont extraordinaires, ma famille aussi, mais moi, c'est quand même pas quelque chose que je fais à plein temps depuis toujours. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours eu la même personnalité, j'ai toujours été un petit peu in your face. J'ai toujours été exactement la même personne, sauf que il y a eu un moment où j'ai quitté mon travail, qui était un excellent travail, j'ai quitté tout ce monde-là, j'ai quitté sans argent, sans plan, sans rien, parce que j'allais mourir de l'intérieur. Donc j'ai tout arrêté sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait juste que je puisse respirer de nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire ça. Sauf que là, sur le coup, mes parents n'ont pas bien compris. C'était là, oui, mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ils savaient que j'étais fragile. Puis ils me connaissent aussi. Je suis pas le genre de personne, depuis que je suis toute petite, à qui il faut faire la morale ou gueuler dessus. Ou essayer, faut essayer d'être gentil, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Sinon, ça va juste éclater. Donc... ils ont été comme ça, mais mon père comprenait vraiment pas. Il fait, mais tu fais ça pourquoi ? Est-ce que ça va durer longtemps ? Mmh. Est-ce que tu fais ça parce que t'as quelque chose à prouver ? Est-ce que c'est l'adrénaline ? Mais vraiment, honnêtement, je voyais que c'était difficile pour lui de comprendre. Il essayait, mais il n'arrivait absolument pas. Mais il essayait. Donc il comprenait pas pendant quelques années, il n'a pas compris. Mais il m'a soutenu. Sans comprendre. Puis à un moment donné, finalement, quand premièrement, il a vu que ça s'arrêtait pas, puis que ça allait sûrement jamais s'arrêter, il y avait une espèce de public, un espèce de monde dans lequel j'évoluais au final, et que c'était quelque chose qui n'était pas juste inventé dans ma tête de starbé. Il a dit, bon, ok, je vais essayer de voir. Et là, maintenant, ils sont à fond, ils me soutiennent. Mon père, il n'y a pas une personne qu'il rencontre à qui il ne montre pas ce que je fais. Sa case de iPhone, c'est mon travail. Enfin, c'est une espèce de papa juif. C'est père et mère juive en une personne. Il est insupportable envers tout le monde vis-à-vis de moi, quoi. Enfin, donc maintenant, c'est
nobody il a fond. Touches miss me.
Il est super fier, mais ça, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident au début. Mais
est-ce que ça change quelque chose ? Quand on est un artiste transgressif, d'avoir, non pas la bénédiction, c'est pas nécessaire, mais d'avoir une acceptation en quelque sorte de là où on vient.
Ça change tout. Moi, je peux le dire très clairement. Je le dis, je l'assume. Je le dis très clairement, c'est un coming out d'artiste fragile. Ouais. Quand tu sais que les personnes qui t'ont vu grandir te soutiennent, j'ai même dit te soutiennent, j'ai pas dit comprennent tout ce que
ouais,
tu fais
absolument.
Ou comprennent toute ta démarche.
Ce qui est très différent.
Ces personnes-là te soutiennent à 100%. Ça vaut tout l'or du monde. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller marcher dans le feu, tu t'en fous.
Tant que tu
arrêtes, ça va marcher. Parce que tu sais que ton père, ta mère, tu sais que ta petite sœur, ton grand frère, des personnes que t'aimes, qui t'ont vu, qui ont vu la l'évolution. Parce que c'est ça le truc, c'est que moi, là, je suis en train de faire un podcast, mais yo, il y a 10, 11 ans, jamais, mais même il y a 3 ans, jamais j'aurais pu penser à un moment que mon œuvre, mon travail aurait pu arriver ce qu'il fait aujourd'hui. Mm-hmm. Jamais. Et quand même, mon père, à 8 ans, il allait livrer du charbon, quoi. Le mec, il travaillait à 8 ans.
Ouais.
Quand il s'est sacrifié pour que moi, j'aille à l'école, pour que mon frère aille à l'école, pour ma petite sœur aussi, pour qu'on ait une vie, une qualité de vie qui est correcte. Et quand je réfléchis une seconde à nos problématiques à nous, mais tabarnak, est-ce qu'on est des vieux bourges de marre ?
Ah, mais grave, grave, grave. J'en discutais en plus hier avec une de mes amies. On parlait de nos grands-mères. Alors moi, ma grand-mère, elle vient de rien. Elle a arrêté l'école à 12 ans pour pouvoir nourrir sa famille. Tu sais, c'est d'autres problèmes, là. C'est vraiment d'autres problèmes. Mais c'est magique de pouvoir en être conscient et de quand même pouvoir prendre avantage de tous ces avantages. Je pense que les deux sont importants. Mais c'est vrai que c'est magique. Parce que finalement, quand ta famille t'accepte dans toutes ces choses-là, quelque part, ils t'acceptent globalement. Parce que ça, c'est fondamentalement toi.
C'est ça. C'est ça. C'est qu'ils ont... littéralement, tu te rends compte que tu es le fruit de personnes qui ne sont pas du tout proches de ce que tu fais.
Mm-hmm, vraiment
mais
pas.
Qui reconnaissent et qui, en fait, acceptent le fait que tu aies fait un 180 et que tu sois de l'autre côté de la réalité possible, imaginable, et malgré tout, ils disent, c'est quoi ? Ouais, je t'aime pareil. Ça a aucune valeur. Tu sais, c'est juste priceless. Mm.
Vos deux démarches sont axées sur un travail sur l'image et sur une image qui est très choc, qui est très poreuse, qu'on comprend très facilement, très rapidement, et qu'on pourrait presque associer facilement à la pub. C'est quoi la différence et l'inspiration ? Oh, je vois Miss Me bouillir déjà.
Non, mais c'est pas déjà, moi, sa question astique, elle est bonne, sa question calée.
Je sais pas. Moi, déjà, premièrement, je pense que vous réduisez beaucoup de mon travail à un truc qui est mon Portrait of a Vandal, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais qui sont pas forcément choquantes visuellement. Tout ce qui est mes Music Saints, tout ce qui est mes Aspire to Inspire, c'est pas choquant.
Je parle pas de choquer, je parle de cette capacité, et pour moi c'est vraiment une qualité, de produire une image qui soit forte.
C'est la communication visuelle, c'est le monde dans lequel on vit.
L'émotion.
Bah, c'est, les pubs, ils passent leur temps à essayer de faire ça.
Mais c'est exactement ce qu'elle dit.
Bah oui,
c'est,
mais sauf que nous on vend rien, quoi. C'est de la communication visuelle.
Je suis pas d'accord avec toi. Tellement pas d'accord avec toi, girl.
Tu vends quelque chose?
Catherine a gagné. Elle a trop raison.
Elle a gagné, la fille.
Je suis fan d'elle.
Attends, où est j'ai perdu.
Tu vas toujours gagner dans son cœur, ne t'inquiète pas.
Non, c'est clair.
Qu'est-ce que j'ai pas capté?
Non.
Artistiquement parlant,
je suis ton mari, c'est clair.
Holy shit, that's awesome.
T'es mariée avec un homme barbu, musulman, ex-musulman, genre.
Exactement, toi, t'es avec une espèce de femme juive à basket qui met des poussies partout. Là, c'est bien, on est bien parti.
C'est clair, ça va être beau.
Mariage du siècle.
Non, mais Catherine a raison. Toi et moi, on joue sur comment créer des images qui marquent. Mm-hmm. Là, on parle des images, OK? Mm-hmm. Moi, je fais des performances à côté, mais on va zapper. On va juste se concentrer sur les images. Qu'est-ce qui nous différencie des publicitaires? Toi, tu as dit on vend rien. Moi, je pense que c'est faux.
Okay.
On vend quelque chose. On vend une idée d'ouverture. On vend une idée d'égalité. On vend une idée de féminisme.
OK, d'accord. Moi, je n'appellerais pas ça vendre.
Non,
parce que je ne le marchande pas contre de l'argent.
Non, mais toi,
pour moi, ça veut dire ça.
C'est amusant parce que toi, tu passes de vendre et tu le bases à l'argent.
Oui.
Oublie l'argent. L'argent est secondaire là-dedans. L'idée, c'est de faire un deal avec quelqu'un qui passe devant ton œuvre et qui dit...
OK, mais c'est parce que moi, le mot vendre, il y a vraiment une question d'argent derrière. Non, donc, c'est le mot, en fait, mais je comprends ce que tu dis.
Tu peux vendre des émotions, tu peux acheter des émotions, tu peux te faire fourrer ben raide avec des émotions sans qu'il y ait un seul sou là-dedans. Et je pense que c'est ça, le point. Enfin, en tout cas, pour moi...
Vendre du rêve, vendre de l'idée, tu veux dire.
Vendre des idéologies.
Okay, d'accord, alors on est d'accord.
Vendre une vision du monde...
Absolument, alors qu'on est complètement d'accord.
Qui n'est pas majoritaire aujourd'hui.
Vendre
une vision où l'homme et la femme seront véritablement égaux. Vendre un monde où on essaiera de ne plus juger les gens en fonction de ce qu'ils ont l'air.
Mm-hmm.
Et que tu sois barbu, arabe, que tu sois noir avec un hoodie, que tu sois une femme avec une micro-jupe et tout, on s'en calisse ben raide.
On va te demander comment tu veux être définie, on va accepter comment tu veux être définie.
Et même pas besoin de te demander comment tu es définie, on va juste te prendre comme tu es.
Ouais, absolument.
Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne le font plus, tabarnak. Ils sont même plus capables de voir quelqu'un arriver sans essayer de prendre cette personne et ils vont se faire un Rolodex.
Ouais, ils ont essayé de quelle catégorie,
exactement.
Pour pouvoir... Non, mais ça,
exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Et je pense que toi et moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois ton travail et c'est pour ça que je suis fucking fan de toi. Hands fucking down, OK? Je te back à 2000%, girl. T'as pas idée. C'est pour ça que je considère que ce que tu fais, et j'ose espérer que ce que je fais aussi, c'est ça. C'est vendre un monde où on vise à ce que tout le monde soit égaux, où littéralement, on s'en calisserait ben raide de savoir que t'es noir, que t'es blanc, que t'es une femme, que t'es un homme, que t'es trans, que t'es pré-op, que t'es post-op, que t'es un intouchable en Inde. Tu sais ce que je veux dire? Ce n'est pas important. On te prend tel que t'es et t'es égal.
Mais quand je disais te définir, comment tu décides d'être... Donc, on s'adresse à toi, en fait. Je faisais référence à quelque chose de très particulier. Simplement, au niveau des genres. Tu sais, genre, que t'es... Il y a aussi des gens qui ont peut-être une... Tu as l'impression que c'est des hommes ou qui sont peut-être des hommes, mais ils n'ont peut-être pas envie d'être adressés de cette manière-là. Ils ont envie d'être adressés d'une certaine manière. Ils ont envie qu'on les appelle comme ça. Ils ont envie que... Ce genre de choses-là, en fait, c'était à ça que je faisais référence. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc oui, dans ce sens de vente-là, oui, on vend l'idéologie, on vend une idée, on vend une émotion, on vend autre chose que ce qu'on voit partout. On vend nos opinions et nos valeurs, quoi.
Et on fait ça sans se questionner sur le fait qu'on va se faire du cash. Parce que mettons-nous d'accord, là.
Ouais, puis sans se questionner si les gens vont aimer ou pas, si les gens vont comprendre ou pas.
En tout cas, moi, je sais que moi, j'ai fait le deuil sur le fait de m'enrichir sur mon art. Parce que tu sais pourquoi? On se fera jamais du cash, girl.
Ma grand-mère est tellement fâchée contre moi. Elle fait, mais pourquoi tu vends pas des trucs? Le seul truc que je vends, c'est genre des t-shirts. Et encore, je les vends super mal parce que j'ai rien sur Internet. Tout le monde m'écrit tout le temps pour ça. Et j'arrive pas à m'organiser pour ça. Je vends des posters à 10 balles. Genre, je vends des trucs à droite, à gauche. Je viens de faire des pièces ici et là, mais je suis mauvaise.
Mais on est mauvais là-dedans. Faut nous trouver des agents, c'est clair.
Mais c'est pas le but. Tu sais, un jour, je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu peux vivre de ça uniquement, c'est magique. Donc dans ce sens-là, oui, mais c'est pas le but. Donc,
j'ai du mal à y croire.
Je sais pas. Moi, j'y pense pas plus que ça.
Moi, j'y crois pas. J'y crois même pas en fait. J'ai du mal à croire qu'on peut vivre d'un art qui est politisé.
Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Est-ce que ça changerait pas tout de suite le message ?
Non, je pense pas. Je pense pas que d'être politisé, ça veut dire que... Parce que, par exemple, moi, genre, très honnêtement, genre, si j'arrive à créer des pièces, que ce sont des pièces d'art que j'aime, qui ont un message fort, etc., et que j'arrive à les vendre à un certain prix et de pouvoir payer mon loyer avec ça, et continuer, dans un même temps, à faire mes affaires gratuites, à faire tous mes trucs dans la rue où je dépense plus qu'autre chose, à continuer à faire mes installations, à continuer à faire des performances, continuer à faire des vidéos de l'autre côté, l'un n'empêche pas l'autre, je pense.
Ouais, donc, sauf que l'étape après, c'est la commande.
Pas forcément. Bon, on a déjà essayé de me commander des trucs beaucoup et...
Est-ce que ça marche?
Pas vraiment.
Ah.
comment tu réagis aux commandes?
Moi, en général, je dis non. À moins que ce soit quelque chose qui a un rapport, tu sais, genre, j'ai fait des murales dans des restaurants.
Ouais.
Ou des choses comme ça. Ça, je l'ai fait. C'était des restaurants qui me plaisaient. C'était des gens que j'aimais bien. Parce que moi, au bout du compte, c'est est-ce que je t'aime bien, est-ce que je t'aime pas, est-ce que ce que tu fais, ça me plaît ou pas. Mm-hmm. Si je kiffe pas, ben, je le fais pas. Puis j'ai pas besoin de te donner de raison, tu vois. Et puis c'était sur un thème donné, que ce soit un restaurant japonais ou mexicain. Puis après, je fais mes affaires, c'est mon interprétation, tu vois. Mais il y a un thème, tu vois. Donc oui, ça me dérange pas, je trouve ça sympa créativement. Si ça va pas contre ce que je fais, si on me demande pas de faire un truc qui a rien à voir avec moi, donc je le ferai, mais c'est toujours sous mes conditions. Ça me dérange pas, perso.
Moi, les seuls... Je suis même pas capable de dire que c'est des commandes, c'est ça le truc.
Ça brûle dans la bouche.
Non, c'est pas que ça brûle, c'est qu'en fait, c'était des personnes qui m'ont contacté pour me dire « Hey, on est intéressé à bosser avec toi, qu'est-ce que tu veux faire ?» Mm-hmm. Donc je sais pas, parce que pour moi, ça me paraît, ça sonne comme une commande.
Mais c'est différent, parce que le truc, c'est que vu que c'est du performance art, c'est difficile d'appeler ça une commande. Mais c'est une collaboration sur un thème, finalement.
Oui, mais ça dépend, parce que par exemple, ce qui s'est passé en Irlande, c'est que j'étais invité en Croatie en 2013 pour réinterpréter un tableau classique croate, qui justement a lancé toute une série sur le queer et le nationalisme, sur la fierté nationale, que j'ai fait donc en Croatie.
Waouh, surtout là-bas.
Non, mais c'est ça, mais ils sont arrivés, je leur ai dit, ils m'ont dit, ouais, on est intéressé à t'avoir, est-ce que ça te tenterait de refaire un tableau croate? Parce que j'avais fait une série de réinterprétations de tableaux classiques qui avait quand même assez bien marché. Je suis assez fier de ça, d'ailleurs. Et je dis, bah, écoutez, oui, quelle est la peinture classique croate qui représente la fierté croate? Il m'envoie ce truc-là, 42 personnages. Je me dis, girl, j'ai jamais fait plus que 11 personnages en même temps. What the fuck?
Dis déjà, 11 personnages, c'est quelque chose.
Non, attends, 11 personnages, c'est peanuts, 11 personnages pour moi. Là. Oublie ça, là, c'est simple.
Okay.
Fait que là, 42, je fais, ouais, OK. Et tu sais, ça a sonné comme une commande. Mais en fait, ce qui est jouissif, c'est qu'ils m'ont mis dans une situation où j'étais hors de ma zone de confort. J'ai jamais fait une œuvre aussi grosse. Fait que je me suis plongé dedans. Et c'était malade. J'ai adoré cette expérience. L'année qui suit, le French Festival de Dublin m'invite. Il me dit, hey, on est intéressé. On a vu ce que tu as fait en Croatie. C'est fucked up. On adore. On t'invite à refaire un tableau irlandais. OK, sur le tableau, il y a 300 personnages.
Aïe,
moi, j'ai dit, OK, hold up, je suis humain après tout, là. Je ne peux pas faire tout le tableau. Je fais juste le premier plan, 83 personnages. Je dis, OK, c'est juste le double de ce que tu as fait l'année d'avant. Mais tu vois, c'est là, en fait, c'est intéressant, Catherine, parce que oui, c'est une sorte de commande, mais c'est le genre de projet qui, moi, m'excite, en fait.
Et ça t'a poussé à te dépasser.
Ça m'a poussé à me dépasser. Ça m'a obligé à faire un photoshoot de 9h30 dans une place publique en Irlande où les gens passaient sur mon stage. Pendant que je prenais des photos, il y avait des personnages que je ne pouvais pas utiliser parce que les piétons étaient pile en face du personnage que je shootais. Voilà. Je ne pouvais pas utiliser la photo. Et c'est ça que je trouve jouissif. C'est cette idée de tout le temps pousser ses limites, tout le temps trouver des moyens différents d'exprimer son message. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça jouissif, parce que Miss Me fait du collage, a fait du collage, entre autres, fait maintenant d'autres choses, et maintenant travaille sur un film. Et je trouve ça super hot.
C'est un film court, là. Tout le monde, les gens vont s'attendre à un truc de...
Non, on s'attend pas à 90 minutes. Mais ce que je veux dire par là, c'est... En tout cas, franchement, partir du collage à 90 minutes, t'aurais des ovaires grosses comme ça, girl.
Je serais malade mentale si un jour je pouvais faire ça, ce serait... Fou,
mais le fait que tu passes par un cours est peut-être aussi une excellente chose.
Non, mais c'est cool, c'est juste une autre manière d'exprimer les mêmes idées, parce que ce que j'explique toujours, c'est que
Moi, chaque pièce que j'ai, c'est que je fais, ça représente une opinion. Ça représente quelque chose qui est en moi et une opinion sur un thème ou sur quelque chose donné. Donc, c'est juste une forme, c'est une manière d'exprimer une opinion, mais ça peut prendre mille autres formes. Et c'est pour ça que c'est pas du tout non logique le fait que c'est devenu vidéo, que c'est devenu performance, que c'est devenu installation. Parce qu'à la base, c'est l'opinion qui est la base de tout, c'est pas la finition. Donc voilà.
Miss Me, est-ce que la féminité existe sans stéréotype?
Bien sûr. Mais elle existe avec stéréotypes aussi. C'est à nous de la dédéfinir, de la déconstruire et de faire en sorte qu'elle soit le plus proche possible de chaque femme, de qui se dit femme, de qui se dit féminine, de ce spectre immense qu'est être une femme, être féminine et des genres. C'est pas... Il y aura toujours quelque chose qui va être le stéréotype de la féminité, je pense, basé sur l'historique. Donc ça, c'est une chose. L'histoire est ce qu'elle est. Et c'est bien et pas bien. Mais la libération passe par la déconstruction que ça. Je pense que ce soit la féminité et ce qu'on appelle la virilité et l'être masculin. Et tout ce qui est entre et tout ce qui fit dans aucun de ces choses-là. Tout ce qui est les deux en même temps. Et ça va être un bazar pas possible. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que ça va être beaucoup plus vrai.
Comment est-ce qu'on peut y arriver quand on a une société capitaliste commerciale qui nous shoot des stéréotypes à fond à la caisse parce que c'est rassurant?
Non, mais la société, elle change, là. Si tu regardes avec les médias sociaux, etc., il y a énormément de bonnes choses et de choses terribles qui se passent avec les médias sociaux. Mais une des choses positives, on va dire, c'est qu'il y a beaucoup de grassroots movement, il y a beaucoup de choses comme ça où on réalise qu'énormément de la jeunesse ou même de gens un peu plus âgés se reconnaissent et ce sont des choses en général qui sont contre ce qu'on appelle les voix les plus fortes, tout ce qui est ce qu'on appelle mainstream media, même si souvent ça prend la forme de grosses conneries non réfléchies ou non recherchées, mais disons qu'il y a quand même quelque chose, il y a une tendance qu'on voit un petit peu partout, et d'ailleurs on voit les marques, toutes les choses là qui arrêtent pas de courir après à essayer de réapproprier ça avec des gens, des brand ambassadors qui sont authentiques, en essayant de faire des pubs authentiques, en essayant d'aller faire des faux comptes de content, etc. Ils arrêtent pas d'essayer d'aller à travers ça parce qu'ils réalisent que tout ce qui est la publicité traditionnelle ne marche plus. Donc, oui, je pense que c'est en train de se passer. Je pense que tout ce qui est... Il va y avoir des gens qui vont se rebeller contre ça et qui vont être réac et qui vont dire non, la femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme. Mais je pense que c'est important. Et oui, il y a des femmes qui sont très femmes et qui ont besoin de ces limites, qui ont besoin de ces définitions-là. Des hommes qui sont très hommes, qui ont besoin de ça. Et il n'y a pas de problème. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut rester très femme et on peut aimer ces stéréotypes-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gens qui n'ont pas besoin de complètement le déconstruire.
Ouais, mais après ça, mais qu'est-ce que c'est qu'une vraie femme et qu'est-ce que c'est qu'un vrai homme?
Non, mais c'est ça, c'est à nous de le redéfinir. Mais, quand je dis vrai homme, vraie femme, c'est le stéréotype historique de la femme et le stéréotype historique de l'homme.
Oui, mais
de la vérité, de la virilité et de la féminité. Mais donc, c'est de ça que je parle.
Oui, mais donc à ce train-là, on part du principe que oui, il y a un stéréotype homme et un stéréotype femme. Parce que si on doit déconstruire quelque chose, on a des références visuelles pour ça, on a des références sociales et morales pour ça.
Ouais.
Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant, c'est qu'il faut quand même réaliser qu'avec le temps, les 20 dernières années, ou 30 dernières années, celles que je connais, bien, une 37. Donc, si je vois la façon dont l'homme est représenté, il y a une fucking évolution.
Absolument.
Mais c'est ça le truc. C'est que cette évolution-là, quel que soit le style physique, visuel et, on va dire, interactionnel, quel qu'il soit, reste que l'homme est censé être viril. Pourtant, le concept de virilité en 2016 a strictement rien à voir.
Mais même si tu regardes au 16e, 17e siècle, ça faisait de la poésie, ça se jetait des fous.
Ça portait des talons hauts.
Ça portait des talons, ça se maquillait.
Des perruques, chérie, j'aurais dû être...
C'est ça, genre, c'était plus féminin par rapport à nos critères stéréotypes aujourd'hui que les femmes à l'époque. Enfin, c'est vrai ce que tu dis.
Et ce qui est fascinant, c'est que... Je me permettrai de rebondir sur ce que tu as posé comme question, parce que... Il y a quand même une différence entre virilité et masculinité.
Tout à fait.
Et ce qui est fascinant, c'est que je suis un exemple fascinant du clash entre virilité et masculinité.
C'est vrai.
Parce qu'il y a énormément de personnes qui considèrent que je ne suis pas viril. Pourtant, je me considère tellement masculin, mais pas dans le sens masculin, genre bûcheron.
Ouais.
Je suis tellement loin de ça. C'est juste que je considère être parfaitement à l'aise avec le fait d'avoir
un pénis entre les jambes, d'avoir une pilosité faciale au niveau de la barbe qui est juste énorme quand j'ai tout perdu au niveau du crâne en 2 ans, ok? Sûrement dû à un excès de testostérone récemment parce que je porte des talons hauts.
Il faut balance.
Toujours, chérie, toujours. Mais c'est ça l'idée, c'est que ce concept de virilité et de masculinité est fascinant.
Mais c'est déjà fantastique parce que vous pouvez osciller là-dedans, alors que de notre côté, on a féminité et féminité.
Mais c'est ça que, justement que je voulais poser comme question à Miss Smith, c'est si avec les hommes, on a le concept de virilité et de masculinité, est-ce qu'on a avec les femmes un concept de féminité et blank?
Pas que je sache. En tout cas, ça ne me vient pas à l'esprit maintenant. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais...
Ou alors, c'est qu'on retombe dans les stéréotypes de la putain et de la mère.
Il y a ça.
Ah, mais... donc au lieu d'être viril et masculin, t'es soit la putain, soit la mère.
Je suis pas sûre, genre. Après, tu...
Je sais pas.
Disons que c'est vrai que c'est des choses qu'on nous a forcément opposées. Tu choisis l'un ou l'autre, et il y a la bonne et la mauvaise, etc. Mais je sais pas. Je sais pas s'il y a un équivalent. Je sais pas.
Parce que moi, dans ce train-là... Si je viens essayer de transposer le concept, on aurait donc la féminité et la femellitude. C'est ça que ça donnerait. Rien que le dire, déjà, je suis mal à l'aise. Ça se voit, ça s'entend pas, mais ça stick, ça se voit. Je suis genre mal à l'aise à l'idée de le dire.
Mais c'est ça, mais parce que c'est vrai qu'historiquement, jusqu'à... C'est une des choses de la libération féministe, etc. C'était la libération sexuelle, et justement de ne pas mettre dans le même paquet une femme qui est sexuelle et qui vit bien sa sexualité, et qui est à l'aise avec sa sexualité, même sa nudité, avec le côté femelle, avec le côté animal, avec le côté reproduction, et se faire baiser comme une chienne, quoi. Enfin, je veux dire, en gros... Mais bon, c'est peut-être ça le parallèle, c'est peut-être ça.
Mais ce qui n'est pas correct, ça veut donc dire qu'il y a un double standard où l'homme peut être viril et masculin, ou peut être masculin et pas viril, en sachant que la femme est juste faite pour être femme, point, à la ligne. Ça veut dire qu'on enlève à la femme tout l'aspect de séduction, tout l'aspect de développement personnel, tout l'aspect de sexualité, tout l'aspect de maternité aussi, qui, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être une hostie de bonne mère et une hostie de bonne baise au lit. L'un n'empêche pas l'autre.
C'est mon but dans la vie, je tiens à le dire à tout le monde. To whomever's gonna marry me, you're gonna be damn happy.
Yes, honey, work for it.
Toufik, quand tu joues avec des personnages de femmes, est-ce que tu les incarnes ou est-ce que tu joues avec les stéréotypes?
Je les joue avec les stéréotypes en les incarnant. C'est-à-dire que... À aucun moment, je ne vise à ressembler à une femme dans mes photos. Je vise à incarner les personnages féminins en les stéréotypant. Pourquoi ? En les caricaturant même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, volontairement, il y avait un moment où j'avais mis des faux seins dans mes photos, mais je les ai enlevés assez rapidement. Parce que je trouvais que c'était too much. En fait, je trouvais que c'était trop... Pour faire passer mon message, en fait, j'ai pas besoin.
Ouais, c'est pas nécessaire de faire ça.
Mais c'est ça le truc. Mais c'est super intéressant parce que... Moi, ça m'a mis dans une situation, je me dis, de quoi est-ce que j'ai besoin pour mettre en scène un personnage féminin? Et j'ai réalisé que les tenues, des talons hauts et une perruque suffisent.
Bien sûr. Pas besoin d'être drag queen.
Non, merci, c'est exactement la référence. Parce qu'en fait, parce qu'il y a des personnes qui considèrent que je fais du drag. Et je dis non, je ne fais pas du drag parce que mon idée n'est pas de faire une illusion. Je sais parfaitement que je suis un bonhomme. Je le sais, je suis à l'aise
avec
ça.
Mais les drags, ils n'essaient pas d'être... de faire l'illusion vraiment d'être une femme.
Mais ça a évolué.
C'est un stéréotype, c'est une exagération de la féminité.
Tout à fait, mais en plus, ça a vachement évolué. Il y a quelques années, là, ça fait peut-être aller une dizaine d'années maintenant, où il y a énormément de dragues différents, où la physicalité a changé, où le style a changé. Mais il y a une époque où, si tu étais drague, il fallait que tu aies des gros tétés, il fallait que tu aies des hanches, il fallait que tu aies des gros cheveux, il fallait que tu sois l'extrême femme, l'extrême exagération. En fait, il fallait que ce soit l'extrême stéréotype caricaturé de la femme. C'était vraiment genre beyond le caricature.
Jessica Rabbit.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Ouais.
C'est ça. T'étais Jessica Rabbit.
Mais avec un peu plus de punch quand même.
Ouais. Attends, elle est hot.
Ouais, elle est hot, mais elle est molle.
Non. Tu peux pas faire.
Elle est molle.
Non, excuse-moi, tu peux faire plus femme comme représentation que Jessica Rabbit. Elle a des gros tétés, elle a une taille genre
size. C'est qui ton idéal de femme?
Under two. Hey.
Stéréotypée comme ça,
genre très féminine dans les.
Jessica Rabbit, pas molle, c'est qui?
Non, elle va dire.
Sophia Loren.
Ah oui.
Moi, je suis fan d'elle. Ouais. Rien à dire. Je suis
dans
fan
le stéréotype, de Miss on Smith. S'entend dans ouais. le côté exagéré de ce qu'on appelle aujourd'hui très féminin, Sophia etc. Lorraine, ouais, je la trouve très belle.
Ouais. Mais la seule qui, pour moi, peut l'arriver...
Enfin, belle. Je la trouve très féminine et belle. Belle. C'est pas juste belle. C'est comme plus que ça.
Ben, c'est intéressant parce que, tu vois, moi, je relis les deux automatiquement.
Ah, pas moi.
Féminine parce que égale belle. Moi, je suis.
Ah, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des femmes qui sont très féminines que je trouverais pas belles et je trouve qu'il y a des femmes qui sont pas féminines dans le côté. Qui sont très genre, justement, entre les genres et que je trouve d'une beauté renversante. Donc, pas forcément.
Ça intéresse. Ok. Parce qu'en fait, ok, je vais réexpliquer mon point. C'est qu'en fait, quand t'as dit féminine, pour moi, une. Parce que bon, quand même, pédale que je suis, hello. Il y a cet aspect foncièrement visuel. Ouais. Et pour moi, quand. Je vois une représentation excessive de la féminité, parce que pour moi, la féminité n'est pas censée ressembler à Sophia Loren. C'est ça le point. Mmh, pour moi, ouais. La féminité, ce n'est pas Sophia Loren. Pour moi, Sophia Loren, c'est la mise en scène oui. de la féminité.
Absolument. C'est un stéréotype. Donc, exactement. C'est des critères qu'on a définis comme extrêmement féminins, qu'elle a énormément.
Exactement. Voilà. Et dans ce sens-là, pour moi, quand on arrive à ce point de mise en scène de la féminité, moi, je trouve ça hot. Parce que je suis un mec qui adore la mise en scène. Ouais. Et donc... Quand je vois des femmes comme Sophia Loren, je tombe dans les pommes. Quand je vois des femmes comme Dita Von Teese, je tombe dans les pommes. Quand je vois des femmes comme Julianne Moore avec une jolie robe verte émeraude, je tombe dans les pommes. Chris, je te jure, je pense que je suis hétérosexuel et je vais juste coucher avec les hommes. Ça, c'est ça mon problème, je pense.
Ouais, mais tu sais quoi, ça se trouve. Hein.
Bah, j'imagine.
Hey. Non, bah, je dirais pourquoi pas.
Alors, Catherine vient de faire un coming out. Bonjour, je m'appelle Toufik, je suis hétérosexuel et je couche avec les hommes.
Tu travailles sur la transformation?
Oui.
Tu travailles caché parce que ton art est illégal.
Ouais.
Et parce que t'as la cagoule, t'es pas juste invisible, tu montres que t'es caché, tu montres que tu
fais quelque chose d'illégal. Ouais, je suis pas invisible. Je suis très visible sur mes réseaux sociaux, etc. Mais je suis pas... J'ai pas de visage, c'est pas pareil.
Mais qui est super troublant. Parce qu'on est dans une période... Excuse-moi, on est dans une période où...
Ah, les selfies, là, moi, je suis pas capable.
C'est pas ça, c'est que le peu de fois où j'ai vu des photos... Parce que, écoute, je la suis sur Instagram depuis quelques semaines. Depuis que j'ai appris qu'on faisait le podcast, je suis des bitches. Clac! Instagram direct. Je capote sur elle. J'ai, dans ma tête, une érection. J'en peux plus. Tellement elle me fucking excite artistiquement, socialement, politiquement. Je me dis, elle, là, elle est off the fucking hook. Donc, je la regarde. Et en fait, je réalise que cette femme n'a pas de visage.
Mais j'ai pas besoin.
Mais exactement ça le point. C'est que tu n'en as pas besoin. Mais surtout, il y a un truc que je trouve super hot dans tes réseaux sociaux, c'est que tu n'as pas de visage, mais tu t'en crées un avec ton art.
Oui.
Et qu'en fait...
Parce qu'on n'est pas forcément notre visage, ça revient à ce que tu dis. On n'est pas notre représentation physique, surtout pour les femmes. En fait, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles je mets un masque, ok ? Il y a la première qui est effectivement, ce sera un petit peu complètement débile de ma part de faire yeah, alors que ce que je fais, c'est complètement illégal. Même si c'est pas la fin du monde, c'est quand même pas hyper intelligent. Bon. Et la deuxième chose, en réalité, c'est que en tant que femme, socialement, depuis la nuit des temps, les gens veulent savoir à quoi on ressemble. Parce que c'est égal ce que tu fais dans la vie, les gens vont avoir une opinion sur à quoi tu ressembles et ils vont dire voilà, cette fille elle est belle, elle est pas belle, je la trouve ci, je la trouve ça, je la trouve. Non, non. Quoi que tu fasses, la discussion à un moment donné va être là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, on fait encore des documentaires de 1 heure, 2 heures sur à quoi ressemblait Cléopâtre. Parce qu'on ne peut pas concevoir que Cléopâtre, elle a été qui elle était, elle a fait tout ce qu'elle a fait, mais que ce n'est pas important ce à quoi elle ressemblait. Elle pouvait avoir du charme, elle pouvait avoir du charisme, elle pouvait avoir de l'intelligence. Non, on veut savoir à quoi elle ressemblait. Parce que quelque part, c'est inconcevable que cette fille-là, cette femme-là avait tout ce pouvoir, elle a fait tout ce qu'elle a fait, elle devait forcément être belle, il devait y avoir quelque chose, il faut percer ce mystère. Il n'y a pas de fucking mystère. S'il n'y a pas de mystère pour Marc Anthony, s'il n'y a pas de mystère pour César, s'il n'y a pas de mystère pour Alexandre le Grand, il n'y a pas de mystère pour Cléopâtre. Mais si, ça fascine. Une femme, la beauté d'une femme, c'est quelque chose d'hypnotisant. La beauté en soi dans le monde, c'est quelque chose d'hypnotisant. C'est un réel pouvoir. Okay, je ne suis pas du tout en train de remettre ça en question. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui peut être célébré, mais qui ne devrait pas... qui ne devrait pas être un compliment en soi pour une femme, qui ne devrait pas être quelque chose vers laquelle tu aspires en tant que femme, parce que ce n'est pas ça. En tant que femme, on peut être tellement plus que ça. Donc moi, je considère que mon art, c'est quelque chose qui est public, donc je veux qu'on en parle, je le mets à l'extérieur, mais de à quoi je ressemble n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Donc je ne le montre pas, donc comme ça, ça ne fait pas partie de la discussion. Mais je peux tout à fait exister, j'ai une personnalité, j'ai une voix, les gens arrivent à me connaître dans mon essence. Et ça marche.
T'aurais pu choisir d'être complètement anonyme, de pas montrer que t'es une femme.
Oui, mais il y a...
Ça irait à l'encontre de son travail.
Exactement. Oui, hein. C'est important par rapport à ce que je fais, que les gens comprennent que ça vient d'une femme.
Et le pire, c'est qu'elle assume pleinement sa féminité et qu'elle en joue. Et moi, je trouve ça absolument jouissif. Le selfie que t'as fait, la photo que t'as fait de toi au Brésil, c'est ça ? Non, t'étais où
En Amérique du Sud ? J'étais au Mexique.
Ok, topless, là, comme ça.
Je sais pas.
Enfin bref, t'as fait une photo de toi.
Je suis jamais topless parce qu'il y a des gens qui arrêtent pas de me censurer sur les réseaux sociaux.
Mais pas topless, c'est-à-dire que t'as pris une position qui était en fait où on te voyait ta tête de premier plan et après ça t'avais ta poitrine et tout, les bras bien croisés, tout ça. Anyway, la mise en scène.
Ah non, ça c'était à Austin, c'est une des dernières.
Ah, c'était à Austin.
Quand j'étais en train de faire mes découpages et que j'ai fait une erreur en prenant mon truc et puis que la photo, en fait, je trouve qu'elle marchait, c'était exactement le moment que je vivais. Fait que oui, il y a quelque chose de sensuel là-dedans, mais je l'assume, j'en ai rien à foutre.
C'est exactement ça que j'adore chez toi, c'est que tu joues et c'est ça qui fait que je suis absolument fucking fan. Je l'ai répété trop de fois, je ne m'excuserai pas de ça, hein. Je l'assume à 2000%.
On va se marier,
clairement. Écoute, mon père sera enfin présent à un mariage hétérosexuel, girl, c'est génial.
Nice.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est exactement ça que j'adore, c'est que tu es capable de faire un travail sur la féminité, sur la femme, sur le féminisme qui gifle les gens dans la gueule et en même temps. Tu acceptes et tu assumes le fait que oui, tu es une femme, que oui, tu es sexy, que oui, tu as un corps et que tu l'assumes et que c'est le tien. Donc, tu deviens maîtresse, en fait, toi-même, des messages que tu lances. Ce qui va à l'opposé, en tout cas, c'est ce que je comprends, ce qui va à l'opposé de ce qu'on est censé faire. Parce que, d'après ce que tu... quand tu as parlé tout à l'heure, tu disais, on veut savoir à quoi ressemble Cléopâtre et tout. Oui, parce que malheureusement, dans ce fucking monde de merde, on pense qu'une femme, si elle a du succès, c'est parce qu'elle est belle.
Ouais.
Et c'est bien pour ça que des femmes comme Angela Merkel a mis des gens en tabarnak. Parce que this bitch n'est pas automatiquement définie comme étant belle.
Et d'ailleurs, quand les gens veulent la...
Mais elle assure, elle déchire,
quand
elle
fait ses trucs. Quand ils veulent la critiquer, la première chose qu'ils vont dire, ils vont dire que c'est une frustrée du cul, c'est
exact.
Une nanana. Mais c'est quoi le rapport avec sa sexualité et ce qu'elle fait,
genre. Je suis parfaitement d'accord.
C'est, même, ils vont faire la même chose sur Hillary Clinton. Je ne suis pas en train de faire de la politique, là. Je ne suis pas en train de dire que je l'aime ou que je ne l'aime pas, mais c'est quand même
quelque chose... On fait de la politique, chérie.
Non, mais...
Arrête.
Oui, mais je ne suis pas en train de parler d'un candidat en quoi ou de dire... C'est quelque chose, it's an easy thing to go to.
Ils vont humilier les femmes parce qu'une femme, pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit visuellement acceptable, il faut qu'elle soit sexualisée, il faut qu'elle soit utilisée.
Faire
et
valoir.
Personnellement, étant un homme né dans une famille musulmane en Afrique du Nord, où déjà l'inégalité homme-femme est quand même bien claire, je considère qu'il est essentiel, qu'il est même sine qua non, pour des gars comme moi, de pousser à mort pour que ça se change.
Mm-hmm.
Parce qu'il est hors de question que ma petite sœur pense encore une fois qu'un homme n'est pas égal à une femme. Je refuse ça. Et je refuse que les futures générations de femmes qui naissent pensent une seule seconde que la femme n'est pas égale à un homme. Je refuse. Et si ça peut passer par moi qui reçois des insultes, moi qui reçois des menaces de mort, comme c'est déjà arrivé et tout, je m'en contre-calise, ma reine. Je le ferai pareil.
Ben, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, moi, je pars du principe que, tu sais, si Jésus, Dieu, Bouddha et compagnie, et Rumi et tous ces gens-là, on arrive à les critiquer et les insulter au jour d'aujourd'hui, c'est pas toi et moi qui vont pas s'en prendre plein la gueule, on s'entend. Les gars, ils étaient là juste pour la paix dans le monde et ils s'en prennent plein la gueule. Donc, il n'y a aucun moyen. Je pars du principe que dès que tu mets une opinion à l'extérieur de toi et que tu stand by it, c'est sûr que tu vas te prendre des clashs. Ça fait partie du jeu. Et puis, une fois que tu comprends ça, bah...
Mais c'est relativiser le truc qui n'est pas facile. C'est relativiser le fait de te dire je crois en quelque chose, je veux faire passer mon message, qui est un message en soi de paix, qui est un message d'égalité, qui est un message de renforcement, d'empowerment pour tout le monde.
Mm-hmm.
Et quand tu reçois des mails en te disant si je te trouve dans la rue, je te décapite, ou si je te trouve dans la rue, je te tabasse, tu te dis ouais, c'est pas très agréable.
Ouais, non, c'est
et,
vrai.
Et c'est l'idée de prendre cette distance-là et de te dire ok, si je reçois des conneries pareilles, c'est parce que je fais de la job. Et moi, c'est ça que je me dis. À chaque fois que je reçois un message,
c'est proportionnel à l'importance de ce que tu fais, proportionnel à l'impact de ce que tu as.
Oui.
Donc tu perds son abcès.
C'est ça. Et quand j'ai reçu ce mail de ce mec-là qui avait cherché une photo de moi sur Internet, qui m'avait décapité. Sur Paint, hein, quand même, c'était whack. Je lui ai répondu, je lui ai dit, bitch, tu utilises Microsoft Paint comme Photoshop? Girl, bye.
Who are you?
I'm not talking to you, je te jure.
Bye, bitch, bye.
C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec a quand même pris le temps de chercher, de trouver ma photo, d'aller sur Paint, de faire un vieux montage merdique, de trouver mon courriel et de m'envoyer. Chérie, ça, c'est 3 heures de ta vie. I did not think about you, bitch.
Ouais.
Et c'est ça le point, c'est que j'ai gagné. J'ai totalement gagné mon coup.
Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport à la honte, des fois, dans ce que vous faites? C'est-à-dire que là, on parle d'une... Comment dire? On parle d'assumer pour faire avancer une cause. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fois un rapport à la honte? Moi, c'est un rapport direct à la honte. C'est quoi ton rapport à la honte?
C'est un rapport à... Moi, c'est mon vécu. Okay? Donc, je parle toujours de mon vécu. Je ne suis pas en train d'essayer de l'imposer sur d'autres. Mais mon vécu, c'est que depuis toujours, on a essayé de... J'ai ressenti de la honte à chaque fois quand... par rapport à mon corps, par rapport à ma sexualité, par rapport à mon physique, par rapport à ma manière d'être. Et j'ai eu énormément d'épisodes qui sont directement liés à la honte. Et même des épisodes extrêmement durs et difficiles. Et la honte, c'est quelque chose de difficile parce que c'est quelque chose qui est self-negating. C'est quelque chose où
tu t'effaces
toi-même, et non seulement tu n'as plus de valeur, mais tu n'existes plus parce que c'est comme si tu n'avais plus le droit d'exister et c'est au fond de toi que tu fais ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement paralysant. Et surtout quand tu réalises, une fois que tu arrives à ressortir un petit peu de ça, que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'a rien à voir avec toi et qui sont les problèmes d'autres gens et qui sont, par rapport à ta démarche intellectuelle, pas valide. C'est un devoir, moi ce que je fais c'est un devoir par rapport à ça, de dire non, oui, je suis là, je suis nue, je suis devant toi, j'existe. Je suis à fucking à poil, je suis là, j'existe, what the fuck are you gonna do about it? It's not about you, it's about me. Moi si je suis là, j'ai le droit d'être sur cette planète au même niveau que toi, t'as pas un droit sur moi simplement parce que je suis femme, parce que je suis nue, parce que mon corps est tel qu'il est, parce que je ressemble à ce que je suis. C'est pas parce que j'ai des seins, c'est pas parce que j'ai des fesses que moi je vais les cacher parce que toi tu réagis à ça. I don't have to change myself because of how you act, because how you react. It is not my fucking problem.
Amen, girl, amen.
Est-ce que la colère, c'est pas quand même déjà reconnaître un certain pouvoir du regard de l'autre?
Mais bien sûr qu'il y a un pouvoir du regard de l'autre, sinon je ne serais pas tout le temps, je serais pas tout le temps à faire ce que je fais, sinon j'aurais... C'est difficile, en français, j'ai l'habitude de parler de ça en anglais bizarrement, mais « everything I do is an outrage » à plus ou moins grand niveau. C'est quelque chose qui me dérange. Bien sûr, je suis quelqu'un qui a vécu des choses plus ou moins difficiles. C'est des choses qui m'ont énormément fait de mal, de par le fait que je suis extrêmement sensible, de par le fait que j'ai vécu des choses qui sont très difficiles. Et c'est ma manière de cope, c'est ma manière de me soigner, c'est sûr. C'est, comme j'ai dit, toutes ces choses-là que je fais à la base, c'est une conversation avec moi-même. Et dans un deuxième temps, c'est dans la sphère publique parce que c'est un petit peu comme l'enfant des gueules qui jette un caillou dans l'eau et qui se sent exister dans le monde extérieur. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a quelque chose d'égoïste là-dedans. Mais de par ma démarche intellectuelle et de ce que je fais, je pense que ce n'est pas égoïste au bout du compte. Mais à la base, c'est très personnel.
Je me permettrais même de corriger un terme. Mm-hmm. Je vais être baveux en crise. Mais tu vas m'aimer parce que je t'aime aussi, c'est clair. Tu as dit que la démarche était égoïste. Moi, je ne pense pas. Je pense que la démarche est narcissique.
Aïe.
Et qu'elle est... Non, mais attends. Dans le sens positif du terme. C'est quand même, je pense que la démarche est narcissique parce que ce n'est pas égoïste, parce que tu le partages. Mm-hmm. Ce n'est pas pour toi. Ça vient d'un narcissisme, comme moi, je suis narcissique.
Qui est nécessaire dans l'authenticité de ce qu'on fait.
Exactement. Parce qu'en fait, quand je veux dire par le narcissisme, ce n'est pas être amoureux de soi. C'est considérer que ce qu'on crée est assez valable pour être montré au monde.
Mais c'est aussi être d'accord que moi, je ne peux pas parler pour d'autres gens. C'est obligé de parler de moi si je veux être authentique parce que je ne peux pas savoir ce que les autres gens pensent. Donc, je vais le faire par rapport à moi, par rapport à mes émotions, ce que je pense, mes opinions. Et ça, c'est la seule chose pour laquelle je peux dire c'est ça.
Et c'est exactement sur ce point-là que je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, c'est ça. On parle de nous, on le traduit, on le lance au monde. Mm-hmm. Et on considère que ce qu'on dit est valide. Il est là, le fond...
Mais il est valide pour nous-mêmes à la base, on l'impose à personne.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est que... Oui et non, on crée, mm-hmm. on le présente, et on considère qu'il est valide pour nous, ça c'est clair et net, parce que jamais on présentera quelque chose qui n'est pas à la hauteur de nos mm-hmm. exigences. Ouais. Jamais. Mais c'est à cause de ça que c'est du narcissisme. Parce qu'on se dit, c'est assez bon pour que moi je l'accepte. Donc le commun des mortels peut l'accepter aussi. Et c'est ça le point, c'est qu'en fait on arrive, on présente nos trucs, et il est là le narcissisme, c'est le fait de se dire que je suis capable de présenter mon truc à l'extérieur et les gens feront avec, et c'est sur ce point là mais après ça, ce qui s'ensuit n'est plus de notre ressort.
Non, la compréhension, ça nous appartient plus.
Exactement, la compréhension de tes vandales est propre à chaque personne.
Absolument.
La compréhension de chacune de mes perfs est propre à chaque personne, et c'est ça la beauté de ce qu'on fait. La beauté, c'est de se dire, on part d'un point A, on produit, on fait notre processus créatif, on l'expose, on le montre. Après ça, c'est plus à nous.
C'est ça. Et les gens, ils en font ce qu'ils veulent, mais on est obligé de let go. Mais c'est hyper sain aussi. Pareil, pour se soigner de nos problèmes, là, c'est hyper sain de dire, voilà, et je ne peux pas le prendre perso, et si ces gens, ça les énerve, ça leur appartient, ce n'est pas quelque chose par rapport à moi. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais c'est aussi dire aux gens, si moi, je suis capable de faire, si moi, ce que je dis, c'est valide, ce que toi, tu as à dire, c'est valide aussi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Vous êtes les deux plantés à Montréal.
Oui.
Vous êtes les deux arrivés à Montréal à un certain moment, et je vous entendais dire tout à l'heure hors studio à quel point pour vous Montréal était stimulant, puis à quel point c'était possible de faire tout et n'importe quoi. Mais vous allez
pas
ailleurs.
N'importe quoi.
Oui, de mauvaise façon.
Tout et n'importe quoi.
Ah oui.
Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi.
Ah ouais.
Tout et n'importe quoi. S'il y a une ville sur cette planète où tu peux faire ce que tu veux, c'est Montréal, Québec, Canada, Amérique du Nord. Name it.
Qu'est-ce que ça okay. change? Et qu'est-ce que ça change quand vous partez? Parce que Miss Me, tu te promènes partout.
Ouais.
Tu présentes ailleurs aussi.
Oui.
Et tu joues aussi sur l'imagerie quand tu fais tes photoshoots ici et en pays arabe et que
tout
tu mets tout ça en lien. Qu'est-ce que ça change, ce rapport-là, à Montréal, à l'international, à là d'où vous venez?
Bah, écoute, moi, personnellement, Montréal, et je pense que c'est ce que tu penses aussi, on vient d'endroits où on a grandi dans des cercles communautaires et sociaux qui n'étaient pas forcément très propices à être soi-même. Et il y avait énormément de pression. Et on a essayé les histoires de boîtes qu'on disait tout à l'heure. Les boîtes, c'était des boîtes en fer. Là. Et je pense que quand on arrive à Montréal, c'est un endroit où c'est un espèce de terrain fertile où les gens ne se jugent pas les uns les autres. Les gens sont assez dans leurs histoires, ils sont assez dans le présent. Il y a quelque chose de vivre et laisser vivre qui est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Et ça, en tant qu'artiste ou quelqu'un qui simplement n'a jamais réussi à fitter dans des boîtes, malgré le fait que, très honnêtement, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé et ça marchait juste pas. Alors, à un moment donné, j'ai fait fuck that, là, je vais juste être en dehors des boîtes et ça va être ça, ma marque de fabrique, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. D'arriver ici et de se dire, waouh, il n'y a pas cette espèce de flap, de plafond, on se dit, on va nous juger. Les gens vont tout le temps, qui que tu croises, à dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu essaies toujours d'être différent? Pourquoi tu essaies de provoquer? Et toi, tu es là, mais j'essaie rien. This is how I feel. À chaque fois que j'essaie de ne pas faire ça, je ne me sens pas bien. Et ici, il n'y a pas besoin, personne ne te pose de questions. Quand tu rencontres les gens, même dans la rue ou dans les clubs, c'est très différent, par exemple, de la France, par exemple, parce qu'on parlait de la France, ou même des États-Unis. En France, on va te dire, la première chose qu'on va te demander quand on te rencontre, tu viens d'où?
Tu viens d'où?
Parce qu'ils ont besoin de savoir culturellement, ethniquement, culturellement, de savoir d'où tu viens pour pouvoir te mettre dans une boîte et pouvoir te prendre dans un certain angle et essayer de savoir à peu près à qui tu es, à quoi tu ressembles.
Ah,
donc
clair.
Te préjuger par rapport à ta culture. En Amérique, la première chose qu'on va te demander, c'est tu fais quoi?
Et qu'est-ce que tu réponds puisque tu veux?
Moi je dis je suis chauffeuse de taxi. Et les gens sont tellement comme weirded out et je les regarde droit dans les yeux. Je fais ouais pourquoi? C'est hyper cool. Je veux dire il y a énormément d'avantages. Moi je fais mes propres horaires. Je gagne ce que je veux. Je me réveille quand je veux. Je peux partir en vacances quand je veux. C'est hyper bien. Et après c'est une liberté incroyable. C'est un espèce de bon plan que personne n'a capté. Ouais je suis chauffeuse de taxi.
J'adore
quand je les regarde pendant deux minutes comme ça, les gens ils comprennent. Ils disent bon. Ça doit être ça, ils trouvent ça tellement plate que du coup, là, on commence à se parler. Ok, so, what's up, comment est-ce que tu penses? Viens, en gros, on essaie de découvrir l'énergie l'un de l'autre dans le présent. C'est ça que je dis. Moi, je dis tout le temps, je suis chauffeur de taxi.
Ton rapport à Montréal et ailleurs?
Ah, c'est une histoire d'amour, Austin. Ah, c'est la meilleure chose que j'ai faite.
Moi aussi, hein. Montréal, c'est
j'ai déménagé à Montréal en 2003. En 2002, j'ai eu une merde au boulot, ça m'a juste fait chier. Et en partant, je dis putain, j'en ai marre de Paris, il faut que je m'en aille. Ok.
Mais vraiment, ça. Paris, toi.
Mais ça, c'est l'histoire. Vraiment, c'est l'histoire brute de décoffrage. J'ai une journée de merde au travail qui dure jusqu'à peut-être 21h30. Je suis en crise contre ma patronne. Je suis en crise contre mes collègues. Je suis dans le métro, je dis je m'en calisse, il faut que je m'en aille. Je baisse la tête et en face de moi, j'ai une publicité Vivre au Québec.
Mais non.
Je te jure. Si. Publicité du bureau du Québec à Paris. Donc, je dis, ah, whatever, j'arrive chez moi, internet, je vais sur le truc, je reçois le dossier pour, en fait, un dossier d'information et il y a une rencontre. Fait que j'y vais et tout. Et de fil en aiguille, 10 mois après, j'ai ma résidence permanente. Fait que j'emménage au Québec en septembre 2003. Je capote sur, et c'est tellement vrai ce que tu dis en plus, Miss Smith, c'est tellement vrai, je capote sur cette facilité d'être. C'est exactement
tout
ça.
Tout est simple, une tout est facilité, humain, il y a une échelle humaine réelle.
Une facilité d'être au quotidien, une facilité d'être dans les interactions. Oui, il y a des complications, oui, il y a des codifications morales, oui, il y a une gestion, une sociabilité, une sociabilisation qui est différente.
Très différente, c'est bizarre. Hein. Au début, t'as l'impression que c'est pareil, en fait, c'est zéro pareil.
Mais tu sais pourquoi ? Parce que ça vient de l'impérialisme français de merde, où on pense que tout ce qui parle francophone est français. Ben, fuck that.
Si on m'avait dit
plutôt, Toufik, prépare-toi, le Québec, c'est pas la France, j'aurais gagné 2 ans d'intégration facile.
Est-ce que vous avez un rapport à la spiritualité à travers votre art? Oh, que j'aimerais pouvoir prendre des photos juste maintenant!
Awkward!
La réponse peut être non, en fait,
je pense que... Avec
pas vraiment, pour moi.
Ah, c'est intéressant.
Pas vraiment. Dans le sens où, moi, ma manière de vivre est spirituelle. Donc, mes valeurs, pour moi, ont un lien à la spiritualité. Mais mon travail, il me semble, d'après mon analyse personnelle de mon travail, est quand même très humaniste, très humain. Pas spirituel. Les valeurs desquelles ça découle ont un rapport à la spiritualité. Je sais pas si...
Moi, mon travail m'a obligé de devenir agnostique.
Ok.
C'est qu'en fait, je réalisais que je me considérais musulman. À une époque, je pratiquais l'islam. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas me considérer musulman en faisant le travail que je fais. Que ça n'avait pas de logique.
Ah ouais ?
Oui, c'est clair. Comment tu peux prétendre croire en Allah, faire tes prières, faire ton ramadan, faire tes trucs ?
Il n'y a pas une différence entre le dogme et la croyance ?
Moi, je n'en fais pas.
Parce que pour moi, il y en a une. Parce que moi, je veux dire, les juifs religieux, comment te dire, qu'ils ne m'aiment pas trop, tu vois.
Arrête.
Mais je me considère profondément juive, mais c'est ma propre définition. Donc c'est sûr qu'on peut venir avec des définitions et des trucs à cocher que je marche pas. Mais je considère que par rapport à ma définition, mon interprétation du judaïsme et de ma spiritualité, je décide d'être juive. Mais c'est sûr que je fais une grosse différence entre la pratique, le dogme, certains écrits et leur interprétation et mon interprétation. Mais c'est un choix.
Ouais, mais moi, sur ce coup, bizarrement, je suis plus radical. C'est qu'en fait, je considérais que je ne pouvais pas prétendre faire ça en faisant ce que je fais. Je ne peux pas prétendre être musulman en questionnant ce que je questionne. Et je me suis dit, faut faire un choix. Et bizarrement, avoir dit à ma famille que j'étais plus musulman,
c'était plus facile pour eux.
De drama.
Ah, okay,
je m'y attendais tellement pas. Moi, je pensais que c'était l'art qui allait faire son problème ou moi qui n'aurais pas d'enfant ni marié. Tu veux dire, non. J'étais un soupé. À partir de ce soir, je vous préviens, je suis plus musulman. Je suis plus musulman depuis mon anniversaire. Et là, mon père est dans le tabarnak.
Mais je peux comprendre, tu sais quoi,
Mais oui, parce qu'ils l'ont pris comme une attaque personnelle.
Mais c'est ça, c'est comme ça ton identité, t'as décidé que c'était ça. Donc si ton fils rejette ça, c'est qu'il rejette son identité à toi.
Ça fait partie des racines.
Oui. Sauf que quand tu leur expliques que techniquement parlant, tu respectes tellement l'éducation qu'ils t'ont donnée, que vu que ce que tu fais, vu qui tu es, et c'est là en fait où tu intègres encore une fois un coming out à l'oriental, ce que j'appellerais comme ça.
Donc t'as abandonné ta religion pour ton art.
Le jour de mes 30 ans.
Joyeux anniversaire.
Merci, Yankee.
Qu'est-ce que...
Aussi, c'était 30 ans.
Ah ouais ?
Ouais. Ça a été le...
Le déclic,
le vrai gros déclic. Ça fait longtemps. Pour moi, c'est quelque chose qui est continuel, mais les 30 ans, ça a été quelque chose de très fort.
Est-ce que vous savez pourquoi ?
Pour moi, c'était vraiment le moment où tu t'es dit, écoute, Toufik, faut arrêter de déconner. Parce qu'il serait temps d'assumer ce que tu fais et de t'accepter sur le fait que tu fais quelque chose, que ça a un effet sur comment tu te sens et que ça a un impact sur les autres. Et je pense que c'est le fait d'assumer le fait que tu imagines quelque chose qui a un impact sur les autres, parce que ça te donne quand même une responsabilité. Mm-hmm. C'est ça, en fait, qui m'a poussé à dire, bon, là, c'est bon, j'arrête de me définir comme musulman, je suis agnostique. Et en fait, ça fait un bien fou, parce que tu réalises que ce que tu fais a un effet, donc tu reconnais ta position là-dessus et ça repositionne tout. Enfin, moi, je ne me suis jamais senti aussi bien que...
Ah, moi aussi, grave. Ça, ma vie n'a pas été plus simple, elle a été plus difficile. J'ai été moins heureuse au jour le jour, ça a été très dur. Mais je suis plus heureuse de manière globale, je suis plus satisfaite de moi. C'est très différent, je ne le remettrai jamais en cause. Mais moi, pour moi, 30 ans, c'était plus, quelque part, le côté, la pression sociale. Pas forcément sociale, mais finalement, la société que j'avais dans ma tête. Le 30 ans, ce que ça représentait pour moi depuis que je suis petite, parce qu'on a aussi toujours cette espèce de pression de nous-mêmes, de ce qu'on représente, de certains chiffres et de qui on pense qu'on va être. Et on se rend compte qu'en fait, rien à voir. Mais je pense que ça a été vraiment quelque chose. Je fais comme, j'ai 30 ans, je suis une femme, j'ai plus de compte à rendre à personne. Je suis une... Quelque part, c'était un peu genre, je suis une adulte. Une femme de 30 ans, c'est pas rien. Like, I'm gonna do my fucking shit and no one's gonna have to... They're saying it. Parce que j'ai 30 ans. Je suis une femme de 30 ans. Ça y est, c'est fini de faire la gentille fille. C'est fini d'essayer de faire plaisir aux gens. C'est fini d'essayer de fitter. C'est fini d'essayer de pas choquer. C'était fini. C'était en fait cette espèce de pression sociale que je m'étais mise dans ma tête qui finalement a été... qui m'a poussée à sortir de ça, en fait. Ça, c'est positif et négatif en même temps.
Mais Smith, tu prépares un court-métrage?
C'est pas un court-métrage, là. Tout le monde... C'est que c'est
mais c'est pas un long-métrage, mais c'est pas un film.
It's an art film, but it's really a short video. C'est une vidéo courte.
Grosso modo, c'est un clip vidéo que tu fais, quoi, c'est ça?
C'est comme ça... Non, c'est 3 minutes. Je voulais pas que ce soit un truc trop long, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, premièrement, les gens...
30 secondes, c'est trop long, chérie, just so you
know. Ben, c'est comme 3 minutes.
Mais personne va le voir.
Les gens qui ont envie de voir, ils le verront, puis c'est tout. Mais c'est, c'était, donc c'est court, mais c'est format internet, on va dire. ouais, ça, on vient de le terminer. Donc c'est quelque chose que j'ai fait avec le Centre Phi, qui est un centre extraordinaire, pour pousser la créativité, pour pousser les artistes, pour pousser les choses que tout le monde trouve un peu bizarre parce qu'il n'y a pas tellement de mode derrière. Il n'y a pas quelque chose. C'est vraiment des gens qui prennent des risques et qui croient dans le développement artistique. Moi, je les découvre et je les trouve extraordinaires. Et donc, ils ont produit ça pour moi, une espèce d'idée complètement folle que je leur ai présentée. Ils ont fait « Let's go ». J'étais comme « Really ?»
C'est vrai. Mais ça, Montréal est une bonne ville pour ça.
Extraordinaire. Et donc, voilà.
Toufik, tu vas être au FTA ?
Oui. Et c'est la même chose. C'est qu'en fait, moi, j'ai envoyé un courriel à Martin Fauché. Ils ont dit, écoutez, Martin Fauché, j'ai une idée en tête. Est-ce qu'on peut je peux avoir une heure pour vous pitcher le truc ? OK, parfait. Ils ont pris le temps de me rencontrer. Ils m'ont dit, OK, bingo, let's do it. C'est donc, je refais la chasse-galerie. 3 jours de temps, place des festivals, quoi. C'est magique. Et il n'y a que Montréal pour faire ce genre de truc. Je tiens encore une fois à le dire, là, je pense pas où est-ce qu'on aurait pu faire ça.
Je connais pas assez les autres villes pour me prononcer comme ça. J'irai pas jusque-là, mais je sais que Montréal, en tout cas, c'est magique. Mais de ce que je connais, c'est que c'est vraiment magique.
Quand je dis Montréal, c'est la seule ville, c'est parce que je croise véritablement Montréal avec le Québec.
Okay.
Et socialement parlant, quand je vois la façon dont le Québec se questionne, la façon dont le Québec est ouvert à la nouveauté, la façon dont le Québec n'a pas peur, en fait, de sortir de sa zone de confort, vu qu'il n'a pas encore défini sa zone de confort.
Ça, il est moins ancré, il a moins des racines moins profondes que...
C'est ça, 400 ans, c'est quoi ? On va fêter notre 375e. Hey, je veux dire, sincèrement, là, on est revus en Simonac, tu sais.
Bon, on parle de la culture actuelle, on ne parle pas de l'histoire du continent, ni de la culture. On s'entend là, parce que on commence à partir là-dedans, moi, je peux y aller. Hein.
Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que moi, je parle de l'identité québécoise
en tant que telle. Oui, absolument.
Okay. Est encore
fraîche. L'histoire, elle a commencé quand même bien avant.
Et c'est pour ça que je dis que moi, c'est un honneur de savoir que je peux me permettre d'être dans une société qui est aussi inclusive, aussi ouverte et aussi curieuse, même quand elle pose des questions connes, même quand elle dit « ben là, comment tu fais ça ?» même quand elle pose des trucs un peu... même quand elle dit des choses qui sont un peu genre réducteurs, never mind, ça fait partie de la beauté de la chose. Ici, tout est à faire.
Mm-hmm.
Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Ouais.
C'est dans ce sens-là, en fait, où je dis que Montréal est vraiment le meilleur espace pour créer.
À un tout petit peu plus long terme, ce serait quoi votre fantasme artistique?
Je sais pas, j'aimerais toucher à tout, moi. J'aimerais faire de la performance, continuer à faire de la vidéo, continuer à faire mes trucs dans la rue, continuer à essayer de toucher à 1000 trucs pour exprimer des idées et espérer d'être considérée comme une artiste globale et pas juste réduite à un style d'expression. Tout comme les genres, la manière d'être femme, homme ou humain, on sort de ça, on essaie d'être au plus proche de soi, puis finalement on se rend compte que ça sort de toutes les boîtes. Ça, je pense que si j'arrivais à avoir le courage de faire toutes ces choses-là, d'arriver à m'exprimer comme ça, et en plus d'être capable de toucher les gens d'une manière ou d'une autre, ce serait mon wet dream. Ce serait mon fantasme.
T'es bien partie.
J'espère.
Toi, tout fait que...
Est-ce que ce serait con de dire que je le vis déjà ?
Non.
Écoute, je considère que je le vis déjà, mon fantasme artistique. C'est qu'en fait, je suis dans une situation où...
on me fait assez confiance pour me donner carte blanche. Et je pense que c'est le plus beau truc qui soit. Et c'est pour ça, le FTH, vraiment, je suis super reconnaissant. Je trouve ça super hot. Justement, et Urban, il y a aussi le fait de reconnaître le fait qu'on est des artistes qui font bouger les choses, qui vont créer de la magie, qui vont faire avancer les choses. Je trouve que c'est absolument magique. Et cette idée-là de pouvoir être pris comme une personne qui peut faire avancer les choses, qui peut questionner les choses, c'est déjà un fantasme. Donc, en soi, je pense que je le vis déjà. Mais j'ai tendance à être quelqu'un de foncièrement satisfait. C'est-à-dire que je regarde souvent d'où je viens,
ouais.
Et je regarde où j'en suis, et je peux pas me plaindre. Franchement, je suis un mec heureux, ça c'est clair. Je peux rien à dire là-dessus.
Urbania, en collaboration avec Le Devoir, a réalisé 4 autres rencontres extraordinaires. Entendez-les au urbania.ca/rencontres.
Ce podcast a été enregistré dans les studios de Choc FM.